Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons de l'insalubrité dans les milieux hospitaliers. Comment lutter contre l'insalubrité dans les hôpitaux? On en parle avec Madame Nicole Mouyoulou, infirmière, hygiéniste et secrétaire administratif de l'Institut supérieur en sciences infirmières. Madame Nicole Mouyoulou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Sylvain Baougueré à la mise en onde. Tati Mapoukou assure la réalisation de cette émission que coordonne Marcel Ngombo Mbalakeba. Jody Daniel au micro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
En République démocratique du Congo, les conditions sanitaires et hygiéniques laissent à désirer dans la plupart des hôpitaux et autres centres hospitaliers. Les ordures et les déchets médicaux sont visibles en certains endroits. Ces déchets peuvent s'accumuler et commencer à dégager. On déplore également la promiscuité dans les hôpitaux. Les malades se partagent les lits, les gardes malades se débrouillent pour avoir une place où passer la nuit. Seuls quelques rares hôpitaux essayent de respecter les normes hygiéniques. Alors, on en parle dans cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les hôpitaux soient propres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'hygiène dans les hôpitaux et autres formations médicales? On en parle avec Madame Nicole Mouyoulou, infirmière hygiéniste. Madame Nicole Mouyoulou, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont les raisons aujourd'hui qui font que certains hôpitaux n'arrivent plus à maintenir l'hygiène? C'est l'insalubrité qui s'est installée.
Bon, d'abord parce qu'on accorde généralement pas beaucoup d'importance à l'hygiène et les personnes ne comprennent peut-être pas qu'un hôpital, c'est un endroit à très haut risque. Donc l'hôpital, c'est pas un endroit pour aller passer la nuit quand on n'a pas de raison d'y être. L'hôpital, c'est un endroit où les personnes vont pour recouvrer la santé, pas pour attraper de nouvelles infections. Alors, les problèmes sont multiples, il n'y a pas seulement une seule cause. D'abord, il faut former le personnel soignant sur l'importance de l'hygiène hospitalière. Malheureusement, c'est une formation qui est parfois un peu négligée, même dans la formation initiale des infirmiers. Ils n'ont pas comme ça des cours spécifiques en hygiène hospitalière, parce qu'on mélange parfois l'hygiène avec la propreté, tout simplement. Non, on pense qu'il suffit que les choses soient propres, mais au niveau de l'hôpital, il y a un niveau un peu plus élevé d'hygiène qu'il faut. Donc, il y a d'abord le problème de la formation, à mon avis, c'est surtout ça. Il faut que les personnes comprennent qu'un hôpital, c'est pas un endroit pour aller faire des visites ou aller passer du temps. Donc, il y a des règles très précises à respecter. Et il faut que les responsables aussi des structures sanitaires, donc des hôpitaux, sachent que l'hygiène aussi a un prix. Parce que quelquefois, on pense que, bon, il suffit d'avoir quelqu'un qui s'est balayé un peu, et puis voilà, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut accorder l'importance qui lui revient à l'hygiène. Et surtout, former les personnes qui se consacrent aux tâches, quand je dis aux tâches d'hygiène, aux tâches de salubrité, de propreté, tout simplement, non? Parce que l'hygiène hospitalière, c'est un niveau un peu plus élevé, non? Bon. Dans notre expérience, disons, au niveau de l'Institut supérieur en sciences infirmières, nous avons travaillé pendant plusieurs années. Nous avons une cellule qu'on appelait la CEPFI, cellule de promotion des pratiques l'hygiène. Et dans cette cellule, en fait, nous avons organisé des formations dans différents hôpitaux de la capitale et même dans le Congo central et dans le Haut-Katanga. Et en fait, on a essayé de faire comprendre aux directeurs d'hôpitaux, aux médecins, infirmiers, techniciens de surface des hôpitaux, qu'il faut se reformer, il faut connaître un peu les choses, savoir ce que c'est l'hygiène hospitalière. Et nous nous basions sur 4 piliers. Donc nous travaillons surtout sur l'hygiène des mains. Bon, maintenant, lorsqu'on parle de l'hygiène des mains, je crois que les personnes ont fini par comprendre l'importance de l'hygiène des mains avec ce qu'on a vu avec la COVID-19. On a cité aussi beaucoup sur la gestion des déchets parce qu'en fait, le problème de la salubrité, c'est la mauvaise gestion des déchets. On a donné des formations aussi sur l'entretien des locaux. Et le 4e pilier, c'était le traitement de ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Donc, tout ce qu'on utilise à l'hôpital pour faire les soins, les plaies, etc., non? Les pinces et tout ça, non? Donc, traitement des dispositifs médicaux et la stérilisation. Donc, avec ces 4 piliers-là, en fait, on donnait la formation en commençant par l'hygiène concerne tout le monde. Donc, on essaie de mettre tout le monde dans le bain, mais surtout les personnes qui travaillent directement en contact avec les malades, donc les techniciens de laboratoire, les infirmiers, les médecins, les techniciens de surface également. Et surtout, on a insisté beaucoup sur l'importance d'avoir un comité d'hygiène à l'hôpital. Le comité d'hygiène à l'hôpital est constitué
Non, allez-y, on vous écoute, allez-y. Oui.
D'accord. Alors, dans les comités d'hygiène, il faut qu'il y ait, c'est très important qu'il y ait le directeur général de l'hôpital aussi, si nécessaire, parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport au budget. Donc, c'est qu'il faut un budget pour l'hygiène. Il faut savoir ce que ça coûte, parce que tous ces produits d'entretien et tout ça, ça a un coût. Donc, il y a le directeur général, et puis il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des pharmaciens aussi dans un comité d'hygiène, oui. Des techniciens de laboratoire et des techniciens de surface. Donc, nous, le travail que l'ICI faisait d'accompagnement de ces hôpitaux, c'était surtout, c'est ça, former le comité d'hygiène, parce qu'il fallait donner la relève après au comité d'hygiène. Donc, former le comité d'hygiène, puis après, l'aider à suivre toutes les différentes tâches de formation et surtout de contrôle, on peut dire en quelque sorte, non?
D'accord. Bon, bien. Je reviens à vous tout à l'heure, Madame Nicole. Le temps d'accueillir quelques auditeurs. Nous avons en ligne Gilbert de Kindou et Eugène de Mbandaka. Nous parlons de l'insalubrité dans les hôpitaux. Eugène, bonjour. Pardon, commençons avec Gilbert de Kindou. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre préoccupation, Gilbert?
Oui, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Ma préoccupation est que dans la salubrité de l'hôpital, dans la première fois, il faut que les responsables de l'hôpital cherchent un endroit fixe pour jeter les poubelles qui se trouvent à l'hôpital. Cet endroit ne doit pas aller en dehors de l'hôpital. Ça va être là même à l'hôpital. Deuxième chose, il fallait que les spécialistes qui soignent les malades, qu'ils prennent beaucoup de rigueur aux malades et aux gardes malades, de faire bien entretenir l'hôpital, de ne pas jeter les poubelles n'importe où. Troisième chose, il fallait que l'État paye les agents qui se trouvent à l'hôpital, les fonctionnaires qui se trouvent au niveau de l'hôpital. Parce que si les fonctionnaires touchent leur bien salaire, ils ont eu également des droits de soigner l'hôpital. Quatrième chose, il fallait que les chefs de l'hôpital qu'ils prennent des rigueurs aux agents, de surveiller beaucoup les malades, de ne pas laisser les malades à n'importe quoi, de faire n'importe quoi dans l'hôpital. D'après moi, c'est ce que je vois à l'hôpital.
Bien, merci Gilbert de Kindou. Évariste, vous êtes en ligne depuis Mbandaka. Bonjour.
Bonjour Jody, c'est Maître Lévarité Bassa depuis la ville de Mbandaka.
Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre l'insalubrité dans les hôpitaux?
Oui Jody, merci bien. le problème des salubrités est un problème de santé publique, un problème qui concerne tout le monde, que tout le monde doit s'y impliquer. Nombreux de nos malades hospitalisés dans les structures sanitaires, ces maladies-là sont dues au problème de l'insalubrité de l'environnement. Donc, c'est un problème qui est très dangereux au regard des nombres élevés de malades dans nos hôpitaux.
D'accord.
Pour pallier à ces problèmes, il faudra mettre des incinérateurs dans chaque hôpital pour, après avoir collecté toutes les saletés, on puisse les brûler. Il faudra aussi qu'on puisse doter les TEO, les filles de la salle, les garçons de salle, des équipements appropriés pour leur permettre de faire bien leur travail, de les doter de moyens suffisants pour qu'ils puissent travailler afin de réduire tant soit peu le nombre de maladies ou de malades dits au problème de l'insalubrité dans les milieux sanitaires.
D'accord.
Monsieur
merci.
Jody.
Oui, Évariste. Oui, allez-y, Évariste.
Ah oui. C'est un problème très important aussi que nous voulons souligner par rapport à la promiscuité dans nos hôpitaux.
Évariste,
comme vous le savez.
Évariste, dites-nous, là-bas à Mbandaka, comment ça se passe aux cliniques de Mbandaka, à l'hôpital de Ouangata? Est-ce qu'on peut dire que l'hygiène est de rigueur là-bas?
Monsieur Jody, dans l'hôpital général de Mbandaka, ou de Ouangata, puisque ici en bas de la ville de Mbandaka, nous avons 3 zones de santé. Les zones de santé de Bolenga, les zones de santé de Mbandaka et de Ouangata. Mais dans l'hôpital général de référence de Ouangata, c'est un hôpital qu'on a bien construit et le service d'entretien est bien assuré. Et si vous allez aujourd'hui, comme nous avons le même des problèmes de Bolenga Mbandaka, l'hôpital est bien entretenu. C'est la coordination de madame le médecin directeur, Mama Bibiche, dont le travail est bien fait dans cet hôpital-là. Vous allez au niveau du quartier Air Congo, dans l'hôpital général de référence de Mbandaka. Il en est la même chose. Dans le centre hospitalier universitaire, enseignement qu'on appelait clinique, le travail est bien fait. Et je voulais souligner un aspect des choses. Dans certaines structures, vous avez soulevé le problème de promiscuité, mais s'il vous plaît, Gilles, vous avez soulevé le problème de promiscuité. Cela est dit au problème des infrastructures, des structures sanitaires. Certains hôpitaux ne sont pas construits selon les normes standards ou les normes architecturales pour permettre qu'un malade peut occuper un lit, un malade peut occuper une chambre. Mais vous allez voir que dans une chambre, il y a plus de 4 personnes, dans un lit, il y a plus de 3 personnes, et cela occasionne des maladies, occasionne
merci,
des taux de mortalité
merci beaucoup,
dans nos milieux.
D'accord, merci. On va accueillir David Kalonji de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, honorable Gilles.
Non, c'est Jody Kajama, depuis que Gilles est devenu honorable.
Merci beaucoup. C'est David Kalonji depuis le Bel Air. En fait, nous avons fait, depuis le Grand Katanga, nous avons fait vraiment de simples analyses concernant la gestion des installations sanitaires dans le Haut-Katanga. C'est vraiment déplorable, dans le sens où de voir une capitale économique qui ne maîtrise pas la gestion des fonctionnements des hôpitaux. C'est pourquoi je parlais d'abord de l'hôpital de Sendwe, qui est d'abord le plus grand hôpital de la province, qui n'arrive pas jusqu'à maintenant à avoir une bonne gestion sur les corps. D'ailleurs, je vous informe bien que ça fait un bout de temps où vous allez comprendre qu'il y a des odeurs nauséabondes qui surquittent au pâturage, bien sûr, aux maisons qui sont aux alentours de l'hôpital. Alors, ce sont des histoires que nous déplorons vraiment. Et un autre constat, c'est que le Grand Katanga n'a pas vraiment un grand nombre d'hôpitaux construits par l'État congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir de ce secteur-là de la santé être laissé comme ça à vue. Un simple individu qui vient, qui vous construit un petit hôpital auquel il y a des infirmiers qui font des opérations et qui causent même la mort de grand nombre de gens. Et puis, une chose aussi qui est beaucoup plus bizarre, c'est que nous sommes en train de voir des grands hôpitaux manquer le grand médecin. On est en train d'exploiter les jeunes infirmiers qui finissent dans instituts supérieurs et dans des normes qui ne vaut pas.
D'accord.
Alors ces
D'accord.
jeunes-là, on leur donne l'accès d'avoir le traitement sur un malade. Alors, ce sont des histoires que nous déplorons.
Alors, ça, c'est autre chose, David. Ça, c'est autre chose. On en reparlera un autre jour. Merci d'avoir appelé. Alors, Madame Nicole Mouyoulou, vous avez suivi les différentes interventions. Les oui. auditeurs, certains ont dit qu'il faut doter les hôpitaux des poubelles, des incinérateurs, et également doter les techniciens des surfaces des moyens pour bien faire le travail. Et David de Lubumbashi déplore, à l'hôpital général des Sendoué, il y a des odeurs. Donc, ça veut dire que l'hygiène pose problème là-bas.
Oui. Ben, ça, on en revient à ça, à la formation, en fait, non? Parce que pour que les gens soient conscients qu'il est nécessaire de doter les hôpitaux de poubelles et tout ça, ça veut dire qu'on doit savoir que l'hygiène a une part importante dans un hôpital. Donc, et ce qui est important coûte nécessairement quelque chose. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent pour l'hygiène. Donc, les personnes ne comprennent peut-être pas ça d'emblée comme ça. On prend les personnes sans formation, comme vient de dire la dernière personne qui est intervenue, hein. Qu'on prend des personnes sans formation pour s'occuper de l'hygiène et tout ça. Mais je voulais aussi, j'ai lu les réponses qui ont été mises sur les commentaires sur le compte Facebook. Il y a une personne qui a dit une chose qui m'a semblé très intéressante, qui disait que l'hygiène, la propreté, c'est l'affaire de tous. Donc ça veut dire, c'est très bien de faire la chasse aux sorcières, de chercher qui est le responsable du manque d'hygiène, mais les personnes qui sont en train de nourrir le tas, ce n'est pas, je ne sais pas qui là, enfin. Non, on dit que l'État doit faire ceci, le gouvernement doit faire cela, mais en attendant, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait là où nous sommes? Comment est-ce que moi, quand je vais à l'hôpital, comment est-ce que je contribue à ce que l'hôpital reste propre? Non? Quand il y a des heures de visite qui sont imposées, pourquoi est-ce que les personnes ne les respectent pas? Pourquoi est-ce qu'on reste plus de temps qu'il le faut? Pourquoi est-ce que les gens vont s'installer à l'hôpital lorsqu'ils ont un membre de famille qui est hospitalisé? Voilà, on va préparer, on va carrément vivre à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses qui sont, enfin, on a un peu perdu, hein, la notion. On sait plus, ou alors on ne sait pas ce que c'est qu'un hôpital. Non?
Madame Nicole, maintenir l'hygiène dans un hôpital a un coût, et ça exige un coût important. Alors, nos hôpitaux ne sont pas financés, n'ont pas assez d'argent, alors ces secteurs, l'hygiène est complètement négligée.
C'est ça aussi le problème, c'est vrai. C'est vrai, tout ça, je suis tout à fait consciente de ça, non? Et les personnes vont à l'hôpital peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils n'ont pas d'autre possibilité, on est obligé d'y aller, on doit faire face à tout, on va choisir l'hôpital peut-être qui coûte un peu moins cher que certains hôpitaux privés parce qu'on doit se faire soigner, non? Bon, ça, je voulais pas trop me mettre dans cette partie-là parce que je n'ai pas une solution comme ça, non? Mais essayer de faire comprendre aux personnes, c'est que l'hôpital, c'est pas un lieu de loisir, non? Un hôpital, c'est pas un endroit où on va là-bas pour passer du temps, non? Donc, il faut que tout le monde se sente responsable, parce que tout le monde doit savoir que nous avons tous une part dans ce qui nous arrive dans ce pays, quoi, parce qu'on va pas chercher jusqu'à la fin des temps que quelqu'un paye tout ce qui ne fonctionne pas ici. Nous-mêmes, nous sommes en train de subir les conséquences de tout ce qui se passe, la mauvaise gestion et tout ce que vous voulez, là, non?
Oui, alors, Madame Nicole, même si l'hygiène a un coût, mais on peut, le minimum, on peut le maintenir. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans les hôpitaux? On trouve les techniciens des surfaces, ce sont des personnes qui ont pris de l'âge, qui sont déjà fatiguées, et qui vont peut-être balayer un tout petit peu, et c'est fatigue, et c'est fini pour la journée. Il n'y a pas de produits, il n'y a pas des désinfectants, il n'y a pas des détergents, et tous les produits qu'il faut, par exemple, pour les nettoyages.
Oui. Oui, mais ça, c'est parce que on pense que, on accorde aucune importance. Ça veut dire le directeur de cet hôpital-là, pour lui, l'hygiène n'a aucune importance. Parce que ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'après, on bombarde les gens d'antibiotiques, non? Parce que, le milieu déjà dans lequel ils sont est complètement infecté, qui fait qu'on doit donner beaucoup d'antibiotiques et la personne reste beaucoup plus longtemps encore à l'hôpital, dans des conditions qui sont tout à fait déplorables, et il attrape des maladies, hein, qui n'avaient pas.
Nosocomiales, les infections nosocomiales.
Oui. Les infections associées aux soins. Maintenant, on parle comme ça, on dit infections associées aux soins.
Oui.
Parce que nosocomiales, moi, au niveau de l'hôpital, mais de manière plus générale, on dit infections associées aux soins. Bah, c'est ça. Donc, alors si on arrive à comprendre ça, si on soigne un peu plus l'information des personnes, des prestataires de santé, peut-être qu'en ce moment-là, ils seront plus conscients de l'importance de l'hygiène. Parce qu'on pense que investir dans l'hygiène, c'est comme perdre de l'argent. Or, ce n'est pas vrai. Si un hôpital est plus propre, les personnes n'auront pas à y rester plus de temps qu'il ne faut. Les personnes restent plus de temps dans un hôpital, aussi parce que les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes, parce qu'ils attrapent là-bas, ne serait-ce que la malaria, quelqu'un a commenté là-bas, il y a tellement de moustiques à l'hôpital que tu n'avais pas une malaria au départ, et puis tu attrapes la malaria, et puis tu dois rester plus longtemps, et puis je ne sais pas quoi. Mais le lit que tu occupes, si tu étais parti les deux jours prévus, quelqu'un d'autre aurait pu venir l'occuper, et pour l'hôpital, il y aurait un roulement, quoi, il y aurait de l'argent qui rentrera tout le temps, mais on s'arrête seulement à, bon, on n'a pas d'argent, on ne va pas investir dans l'hygiène, alors comme ça, on a des gens qui restent des semaines, ils doivent payer des factures en plus, qu'ils n'arrivent même plus à payer à la fin parce que tellement d'antibiotiques finalement que ça devient trop cher. Donc, en fait, c'est comme un cercle vicieux là qu'il faut essayer de casser. Il faut que les gens comprennent que l'hygiène est importante et que l'hygiène a un coût. A un coût. Ça, vraiment, il faut que ça arrive dans la tête des gens. L'hygiène a un coût. Et il faut former le personnel, les visiteurs et les malades. Les visiteurs, pour ne pas rester plus de temps qu'il ne faut, pour ne pas, eux, venir là-bas en pensant qu'ils sont... qui vont rien attraper, parce qu'ils peuvent attraper beaucoup plus de choses encore à l'hôpital. Et les malades aussi, parce que c'est vrai que l'hôpital doit se charger de beaucoup de choses, mais j'étais en train de penser, ne serait-ce que le linge, par exemple, de l'hôpital, non? Mmh. En principe, le linge de l'hôpital doit être fourni par l'hôpital. Les gens ne peuvent pas venir avec leurs draps de la maison, parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ont été nettoyés ces draps. Et l'endroit où une personne qui a subi une intervention chirurgicale très importante, je sais pas quoi, non, une personne qui a un peu immunodéprimé ou je sais pas. Mais il faut qu'il y ait un linge propre. Et ça, on n'est pas sûr de cela. Alors, on va le faire avec soi, on va faire tout ce que vous voulez, mais si l'environnement dans lequel il est déjà sale, c'est comme si vous êtes en train de, enfin, je sais pas moi.
Voilà. Parlons par exemple des toilettes dans les hôpitaux. C'est déplorable. Il y a des odeurs incroyables, des mouches. Et on attrape des infections là-bas.
Oui. Oh, j'ai lu beaucoup de commentaires là. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça m'a donné l'occasion d'apprendre des choses qui se passent dans d'autres provinces de la République. Parce que bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça?
Par rapport aux toilettes. Voilà, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait dans chaque hôpital un comité d'hygiène.
Un comité d'hygiène
qui sera composé de médecins directeurs et de qui d'autres?
De la directrice de nursing. Il faut en fait qu'il y ait un représentant de chaque catégorie de personnel qui intervient à l'hôpital. Oui. Parce que l'hygiène, c'est l'affaire de tout le monde. Donc il faut que tout le monde soit mis là-dedans. Bien sûr, le personnel, le technicien de surface, les filles de salle, comme on les appelle, doivent aussi faire partie. Mais l'infirmière a un rôle fondamental, l'infirmière, les techniciens de laboratoire, le pharmacien, toutes les personnes qui interviennent dans le comité d'hygiène. Parce que tout ça, ça a un lien avec l'hygiène, non?
Et quelle sera la mission de ces comités-là?
La mission du comité d'hygiène, ce sera de veiller justement sur les normes d'hygiène à l'hôpital. Quand je parle d'hygiène, c'est plutôt salubrité en général, non? Après, il y a un domaine plus spécifique qui est la prévention et le contrôle des infections. Ça, c'est un peu plus... c'est ça qu'on appelle vraiment l'hygiène hospitalière, non? Ça, c'est un pouvoir un peu... Quel est le taux d'antibiotiques qu'on utilise dans l'hôpital? Si on utilise trop, ça veut dire qu'il y a un problème caché là-bas. Parce que si la personne, chaque fois qu'elle vient à l'hôpital... finit par attraper une infection, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce serait peut-être au niveau du matériel qu'on utilise à l'hôpital, qui n'est pas bien stérilisé, ou bien ce sera peut-être par rapport à l'hygiène des mains. C'est une chose très banale, l'hygiène des mains. Mais maintenant, on a compris. On peut contaminer un nombre important de personnes si on ne se lave pas les mains avant et après chaque soin. Parce qu'avec mes mains, en fait, je peux porter quantité de germes et je touche les poignées de porte et je touche les tables et je touche le téléphone et je touche plein de choses et je touche la personne à soigner. Donc, avec ça, je peux transmettre beaucoup.
Pour l'hygiène de mains, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un hôpital? Des dispositifs de lave-mains ou des solutions hydroalcooliques?
Oui. L'eau et le savon, c'est ça vraiment le meilleur et même. L'eau et le savon et le gel hydroalcoolique, évidemment, non? Qui tue les germes à 99,9%, mais après avoir utilisé le gel hydroalcoolique 5, 6, 7 fois, il faut quand même retourner à l'eau et au savon, parce qu'après ça colle un peu sur les mains et tout ça, non? Mais avant chaque soin, après chaque soin, l'hygiène des mains est fondamentale, quoi. On peut pas, non? Et maintenant, c'est très bien avec ce qui s'est passé avec la COVID-19, enfin, très bien. Bon, disons.
Même ceux qui n'avaient pas l'habitude de se laver les mains, maintenant, ils ont quand même pris l'habitude. Hein.
Oui. Et à l'entrée des hôpitaux, maintenant, il y a un point d'eau et personne ne s'étonne qu'il faut se laver les mains. On s'étonne, la saleté qu'on a entre les mains, toute la poussière, on a touché l'argent, on est venu dans le transport en commun et tout ça. On s'étonne de la quantité de saleté qui peut sortir des mains en se lavant seulement les mains. Et c'est un réflexe qu'il faut vraiment apprendre. Non, en arrivant à la maison, la première chose à faire, c'est se laver les mains. On a été dans la rue, on a salué des gens, etc. Il faut se laver les mains. Enfin, il y a des moments comme ça précis pour se laver les mains, mais il faut que ça devienne comme une habitude que les gens doivent vraiment... Non, intégré, quoi.
D'accord. On va accueillir des auditeurs. Divin Katawa de Kananga et Jean-Marie de Kasumbalesa. Divin Katawa, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Lodi. C'est Divin Katawa depuis la ville de Kananga.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'hygiène hospitalière?
Oui. Merci beaucoup de m'avoir associé à ce débat. Il y a un temps, nous avons remarqué que nos hôpitaux, vraiment, sont transformés... un nid d'oiseau, on dirait. Les hôpitaux sont devenus trop sales. À ce sujet, moi, je dis que il n'y a pas de politique publique. Le gouvernement doit prévoir au moins une politique publique pour aménager les hôpitaux, former les hommes de santé. Ils ne sont pas bien formés à ce sujet.
Divin Katawa, dans quel état se trouvent les hôpitaux là-bas à Kananga?
Les hôpitaux, vraiment, je vous dis... Ils sont dans un état de l'abrément très avancé.
Puis prenons les cas de l'hôpital général de Kananga.
Oui, l'hôpital général de Kananga. Si vous y entrez aujourd'hui, je vous dis, il n'y a même pas de toilettes. Il n'y a pas de toilettes. Il y a de l'odeur partout, ça pue. Vous entrez avec la malaria pour sortir avec la fièvre typhoïde. En tout cas, c'est regrettable. C'est regrettable, vraiment.
Il n'y a pas des hôpitaux et comment les gens font pour se soulager?
Il n'y en a pas. Les gens se débrouillent vraiment. C'est trop sale. C'est trop sale. Si vous n'avez même pas le temps d'y entrer, ça pue vraiment.
D'accord. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Je voudrais demander à l'invité si, à partir de cette émission, y a-t-il moyen de donner certains conseils d'abord aux hommes de santé, ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, pour qu'à partir d'eux, ils puissent faire quand même un effort, parce que le gouvernement devient incompétent d'intervenir dans ce secteur, pour qu'à partir des hommes de métier qui sont dans les hôpitaux, centres de santé, s'ils peuvent appliquer une certaine politique pour aménager au moins les hôpitaux à leur niveau.
D'accord, merci Divin Katawa. Jean-Marie, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'hygiène hospitalière?
Ah oui, à ce concept d'hygiène hospitalière, nous constatons dans nos milieux des pharmacies qui sont transformées en hôpitaux, auxquelles on trouve juste deux ou trois lits confinés avec trois quatre malades là-dedans. Vraiment, même dans des kiosques, vous trouvez dans une pharmacie où il y a l'alimentation, c'est l'hôpital, vraiment, ça nous complique ici. Ce que j'aimerais savoir est-ce que le ministre de la Santé, toutes ces pharmacies qui sont transformées en hôpitaux ici,
Jean-Marie, comment est-ce qu'une pharmacie peut devenir un hôpital?
Il y a des pharmacies ici qu'on trouve, il y a des lits là-dedans, mais c'est écrit pharmacie. Qui a deux chambres ou bien une chambre, mais qui compte deux lits ou bien trois lits. Mais il y a des malades là-bas qui fréquentent des soins médicaux là-bas. Ouais. Tout ça contribue aussi à la contamination et aux morts perpétuelles.
D'accord, merci Jean-Marie. Ngengele, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'hygiène dans les hôpitaux?
Bon, bien sûr, d'abord, je remercie d'abord la radio Capi de m'avoir accordé cette parole. J'ai commencé à propos de l'instabilité qui régisse dans nos hôpitaux publics, dans la capitale ainsi que dans les provinces. Par rapport à ce commentaire, je voudrais seulement me focaliser sur ce que le gouvernement doit faire afin qu'il y ait une bonne salubrité au sein de nos hôpitaux.
Oui, qu'est-ce que le gouvernement doit faire concrètement?
Comme je l'ai commenté sur la page Facebook, le gouvernement garant de la stabilité ainsi que de tout en RDC, celle-ci doit prendre d'abord en charge la responsabilité en finançant quand même les services sanitaires ainsi que en instituant des services d'inspection sanitaire pour que celui-ci puisse contribuer à examiner ainsi qu'à contrôler les agents publics, et y compris aussi le respect de la déontologie sanitaire des agents.
D'accord. Merci, Ngengede. Madame Nicole Mouyoulou, vous avez la parole.
Oui. Bon, en fait, ce que j'entends là, ça veut dire, bon, c'est à un niveau qui n'est pas, enfin, qui ne nous concerne pas directement. Ça veut dire, avant d'ouvrir, avant de, qu'un hôpital puisse fonctionner en tant qu'hôpital, je suppose qu'il y a des autorisations qu'ils vont recevoir, non? C'est le, je crois que c'est le, oui, la moindre des choses. Je suppose qu'il y a des, alors, si déjà à ce niveau-là, ça ne marche pas, bon, on ne peut pas appeler un hôpital une chose qui n'est pas un hôpital. Enfin, peut-être qu'on appelle l'hôpital n'importe quelle structure qu'une personne transforme et commence à faire du commerce, je peux dire, non?
Oui.
Commerce de la santé. Alors là, là c'est déjà autre chose. Hein. Là, on ne va pas s'en mêler.
Voilà, on ne va pas se mêler de ça. Alors, comment expliquer dans un grand hôpital, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de lieu d'aisance?
Oui. Oui, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bon, enfin, je ne sais pas. Peut-être on s'est habitué un peu à des choses un peu anormales. Je comprends que lorsqu'on a, on n'a pas les moyens qu'on doit payer soi-même, on va là où on peut aller, mais il faut aussi que nous comprenions que de la même façon que l'hygiène a un coût, la santé aussi a un coût. Ça veut dire, si l'État ne prend pas en charge les soins de santé et que je dois prendre en charge mes propres soins, moi-même mes propres soins de santé, je ne veux pas aller à n'importe quel endroit non plus. Donc, je comprends qu'une personne très, très pauvre est obligée d'aller à un endroit où il va payer le minimum, mais il faut que les gens apprennent aussi, qu'on doit parfois payer un peu plus pour notre santé, parce qu'après, nous, c'est la mort, quoi. Ce qui nous attend d'ailleurs très souvent, c'est ça. On va dans un endroit minable à la dernière minute, parce qu'on a attendu jusqu'à la dernière minute pour y aller. Je comprends la situation, mais je parle d'une situation plus ou moins normale. Ça veut dire que quelquefois, les gens ne veulent pas non plus payer, même quand l'hôpital a les conditions qu'il faut, parce qu'on pense que, bon, enfin, que quelqu'un d'autre doit le faire, mais on doit connaître, on doit savoir où est-ce que nous sommes. Dans notre pays, les soins de santé sont pris en charge par les personnes elles-mêmes, alors ça a un coût. Il faut mettre de côté de l'argent pour les soins de santé.
Peut-être voilà. Vous avez suivi Ngengele de Kisangani qui propose qu'il faut, il faut d'abord financer l'hygiène, la salubrité dans les hôpitaux et mettre en place une équipe de contrôle qui viendra inspecter pour voir si réellement il y a les mesures d'hygiène sont respectées.
Oui, c'est ça. Il y a des hôpitaux qu'il faudrait fermer. En fait, c'est scandaleux d'entendre qu'un hôpital de référence d'une province, une grande province de la République n'a pas les conditions qu'il faut. Et tout le monde est au courant de ça. Ce sont des hôpitaux qu'il fallait fermer. Enfin, moi, je ne dis pas moi qui va les fermer ces hôpitaux-là, mais ce qu'il faudrait faire, c'est les fermer. Mais entre-temps, où vont aller les personnes? C'est ça qui arrive aussi. Où vont aller les personnes? Les personnes doivent se faire soigner. Où est-ce qu'elles vont aller se faire soigner? S'il n'y a que ça comme hôpital. Ou alors, on a les hôpitaux privés qui coûtent un peu plus cher et tout ça. Et les gens, bon, ne veulent pas payer trop d'argent non plus. Mais c'est ça. C'est comme ça. On est en train de se tuer nous-mêmes, finalement, non? Mais bon. Mais il ne s'agit pas de donner seulement une image négative. Il faut voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc, moi, je me dis, il faut conscientiser les personnes. Donc, l'hygiène, c'est une chose qui nous concerne tous. Hein, nous devons savoir que si nous devons préserver notre santé, peut-être que nous devons commencer, étant donné que nous sommes un pays tel qu'il est, hein, en voie de sous-développement, nous devons d'abord penser à la prévention.
En voie de développement, oui.
Oui, en longue voie de développement. Donc, pensons d'abord à la prévention. Ça veut dire, s'il faut éviter d'aller à l'hôpital, essayons d'éviter d'aller à l'hôpital. S'il faut, ça veut dire, à la maison, essayons de soigner ces choses de base. Une bonne gestion des déchets, une bonne hygiène des mains, une alimentation plus ou moins équilibrée, ça nous évitera de devoir aller dans des hôpitaux insalubres. Ça veut dire, il faut commencer un peu plus, bien en avant, parce que sinon, c'est ça qui arrive. Quoi.
Alors, pour terminer,
les hôpitaux ne sont pas dans de bonnes conditions.
Oui, pour terminer, on va récapituler, Madame Nicole. Vous avez dit pour maintenir l'hygiène dans les hôpitaux, il y a quatre éléments à considérer. L'hygiène des mains, la gestion des déchets, la propreté des locaux, ainsi que les traitements des dispositifs médicaux.
Oui, et aussi le linge. Hein. Je parle quand même important aussi le linge à l'hôpital, parce que le linge est très important, parce que c'est aussi, ça peut aussi être un vecteur d'infection, parce que si on a du linge sale, souillé, qu'on ne nettoie pas comme il faut, ben c'est aussi une façon de faire attraper des maladies aux personnes, quoi. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient le linge, non? Il vient de l'extérieur et peut-être qu'il a déjà été contaminé, etc., etc.
Alors pourquoi ne pas organiser des formations, des remises à niveau régulièrement dans les hôpitaux par rapport à l'hygiène?
Oui, quand je voulais parler de formation, en fait, c'est ça. Donc, l'ICI a une cellule, qui, je l'ai dit au début, qui s'appelle la CEPFI, la cellule pour la promotion des pratiques d'hygiène, qui se charge de ça, justement, d'organiser des formations de remise à niveau pour le personnel soignant dans les hôpitaux, en commençant par le médecin, infirmier, technicien de laboratoire et les techniciens de surface. Donc, on organise ces formations en hygiène. Et on l'a fait aussi dans le Congo central, à l'hôpital de Kisantu, et on l'a fait aussi au Katanga, à Lubumbashi, dans quelques hôpitaux de Lubumbashi. Donc, ça veut dire que ce sont des choses qui existent, non? Il faut vraiment redonner sa place à l'hygiène, parce que des fois, c'est ça. Les personnes pensent bien faire, on a une bonne volonté, mais parfois, on ne sait pas exactement comment il faut le faire, non? Mais l'hygiène est très importante, non? Et il faut conscientiser les personnes. Que nous tous, nous pouvons contribuer un peu à cette amélioration de l'hygiène, non? Peut-être qu'au niveau des infirmiers, je sais pas, chacun à son niveau, voir qu'est-ce qu'on peut faire, non? Parce que je dois parfois me révolter lorsque je dois soigner dans un hôpital qui n'est pas propre. Pourquoi les gens font des marches seulement pour les salaires et tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne marche pas aussi pour l'amélioration des conditions de travail? Nous sommes pas obligés de travailler dans un hôpital où c'est impossible de respirer. Non, si tous les infirmiers font la grève parce que les conditions sont mauvaises, peut-être qu'on va changer quelque chose. On réclame les salaires. Oui, mais l'hôpital, le premier rôle de l'hôpital, c'est le bien-être du malade. Si vous ne pouvez même pas assurer le bien-être du malade, on pense seulement à son propre salaire, on ne va nulle part avec ça.
Bien. Il faut penser à cela. Madame Nicole Mouyoulou, nous vous disons merci. Nous rappelons que vous êtes infirmière, hygiéniste et secrétaire administratif à l'Institut supérieur en sciences infirmières. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci, au revoir.
Radio Okapi vous propose ses programmes en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h en rediffusion de 20h à 22h heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h en rediffusion de 22h à 23h heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30 heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci d'écouter le magazine de la vie au quotidien hein, au Capi Service. Comment lutter contre l'insalubrité dans les hôpitaux publics de la RDC, l'insalubrité et la promiscuité? Nous avons en ligne Dr Anissé Kipassa, expert en santé publique. Dr Anissé, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à tous les auditeurs et bonjour aussi à Madame Nicole que vous venez de libérer là.
Voilà, docteur Anissé, beaucoup de nos hôpitaux ne sont pas propres, l'hygiène n'est pas du tout respectée, l'insalubrité bat son plein dans les milieux hospitaliers, vous trouvez des toilettes qui sont très très sales, vous avez trop de moustiques dans les hôpitaux, les gens peuvent même attraper la malaria là-bas, les feuilles de chikwang qui circulent un peu partout, la nuit vous avez les chats qui envahissent les hôpitaux pour chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a là-bas de cette insalubrité criante dans les hôpitaux?
Merci Jody. J'ai bien suivi Madame Nicole et je suis vraiment heureux de savoir que Madame Nicole en tant qu'infirmière est infirmière hygiéniste. Et comme vous venez de le dire, effectivement l'hygiène intra-hospitalière ou l'assainissement intra-hospitalier dans la plupart de nos hôpitaux pose problème. C'est pas seulement, je vais vous ajouter, Jody, à l'époque quand on était jeune, parfois pour éviter l'hôpital, l'une des premières choses qui faisait fuir les gens à l'hôpital c'était les odeurs. Quand vous entrez dans un hôpital, en dehors de tout ce que vous avez cité là, c'est vrai, vous entrez dans un hôpital, ce que les gens n'aiment pas, c'est surtout les odeurs.
Et de quelle odeur s'agit-il? Les odeurs des produits ou bien des odeurs causées par la saleté?
Par la saleté, partout. En dehors de produits, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est des odeurs-là, de vous sentez quelque part de choses malodorantes et tout ce qu'on a jeté par-ci, par-là, et ça sent très mauvais à l'hôpital. Les gens n'aimaient pas aller à l'hôpital parce que ça sentait mauvais. bien. Mais ce n'est pas dans tous les hôpitaux aujourd'hui. Vous avez posé la question, à quoi tient cela? Moi, je dis simplement, c'est vrai, parmi toutes les causes que Madame Nicolas a évoquées là, mais l'autre problème le plus important, ou parmi les problèmes les plus importants, ils font partie de la définition même des infections nosocomiales. Nosos, en grec, ça signifie maladie. Komen, komen signifie soigner. Toutes ces maladies qu'on attrape à l'hôpital, quand les gens sont à l'hôpital, les premières victimes, je voudrais te dire, les premières victimes sont le personnel soignant. Paradoxe, j'ai entendu Madame Nicolas dire quelque chose de très important. C'est pour te dire que l'un des grands facteurs de cette situation, le premier fait que je souligne là, c'est le fait lié aux ressources humaines, au personnel soignant lui-même, le personnel soignant qui est la victime, la première victime de toute cette situation-là. Qu'est-ce qu'il y a à leur niveau? Il y a un certain délaissement, un certain découragement, une certaine démotivation. C'est ça qui fait que les gens ne veulent pas prendre soin de toutes ces activités-là. L'hygiène intra-hospitalière est une activité à part entière, comme les soins curatifs à l'hôpital et tout le reste. Et pour cela, je dis, il faut absolument, je parle pas de tout le reste, il faut absolument que le personnel soignant identifie son intérêt et s'approprie cette activité-là, parce que le personnel soignant constitue la catégorie des toutes premières victimes dans les infections nosocomiales à l'hôpital. Évidemment, et ils vont me dire, il y a d'autres facteurs, nous avons besoin de ceci, mais au départ, l'hygiène hospitalière protège en premier lieu le personnel soignant et, comme l'a dit Madame Mouyoulou, ça doit être le problème de tout le monde, du médecin jusqu'au petit travailleur ordinaire qui travaille à l'hôpital. Ça doit être le problème de tout le monde, j'ai dit bien, tous ceux qui sont à l'hôpital. Les autres facteurs, c'est vrai, comme l'a dit Madame Mouyoulou, il y a le moyen, la logistique, mais dès le départ, c'est le problème de la motivation, le problème du personnel soignant. Regarde, je dis, le moustique à l'hôpital ne fait pas de tri, de sélection pour piquer. Il peut piquer le médecin et l'infirmier et tout le monde, et le malade. Donc, c'est avant tout le problème de tout le monde. Je voudrais pas dire la négligence du travailleur, parce qu'il va dire, moi je ne suis pas payé, moi je suis comme ça. Je voudrais dire, vraiment pas la négligence, mais c'est beaucoup plus un problème d'intérêt d'abord de personnel soignant, qu'ils arrivent à comprendre que le premier qui sont à risque, ce sont eux qui passent, qui séjournent à l'hôpital plus que les malades eux-mêmes.
Quelqu'un appelait tout à l'heure là pour nous dire qu'à par exemple à l'hôpital général de Kananga, il y a même pas de toilettes. C'est fermé, les gens se débrouillent pour se soulager. Vous imaginez, docteur?
Oui, j'ai suivi cet auditeur-là. Mais oui, je reviens toujours à la même question. Où va le médecin, où va l'infirmier, où va l'administrateur gestionnaire qui gère l'argent quand il a des besoins physiologiques? Il va où? Il doit aller en dehors de la passée de l'hôpital ou qu'est-ce qu'il fait?
Bon, peut-être que le médecin et les autres, ils ont des toilettes dans leur bureau.
Oui, mais je parie que s'ils ont des toilettes dans leur bureau, il leur arrive d'avoir des malades. Je prends un Kananga, je pense qu'il y a une clinique, il y a un coin où les gens reçoivent des gens respectueux. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Je prends l'hôpital général de Kikwit, où j'ai été médecin directeur. Quand vous entrez tout près de nos bureaux, il y a des toilettes. Mais on tient compte chaque jour, il faut que ces toilettes soient propres. Mais en dehors de cela, il y a les toilettes pour les malades. Dès qu'on a reçu, par exemple, de fonds pour le PBS, pour la Banque mondiale, ou Memisa à l'époque, l'une des premières choses qu'on a faites, c'est la salubrité de l'hôpital. Oui. De boucher toutes ces toilettes pour que les malades soient à l'aise. Et non seulement ça, pour que de temps en temps, le besoin, c'est un besoin physiologique. Dans le pavillon, tout de suite là, les toilettes sont un peu en dehors du pavillon. Donc, l'infirmier ou le personnel peut avoir, a le même besoin que les autres. Je me dis, le cas de Kananga peut être un cas spécial. Mais généralement, l'architecte, les constructeurs, partout où on a construit des hôpitaux, il y a des exigences sur le plan urbanistique, il y a des exigences qui disent l'une des premières choses auxquelles il faut penser, c'est les salles d'aisance. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus... Ils sont encore beaucoup plus... je dis, le ministère de la Santé travaille beaucoup dans ces cadres-là. Le principe, les règles, la réglementation en matière de gestion d'un hôpital sont claires et nettes. Donc, l'une des premières choses, c'est l'aisance à l'hôpital.
Voilà, l'aisance à l'hôpital. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les gardes malades aussi contribuent à l'insalubrité? Parce que vous trouverez des gardes malades à l'hôpital en train d'allumer du feu, en train de préparer, les feuilles de chikwang sont jetées par-ci, par-là. C'est vraiment comme à la maison.
Je vous donne un exemple aujourd'hui. J'ai été aux cliniques universitaires, j'ai été dans beaucoup d'hôpitaux, j'ai travaillé à l'hôpital évangélique de Vanga, j'ai vu l'hôpital de Mosango. Je prends le cas de Kinshasa. Regardez, si vous allez chez les sœurs à Kingasani, les sœurs de pauvres, je dis, les aides malades n'entrent pas là où les femmes ont accouché. Il y a un petit endroit où ils peuvent recevoir les gens. Et par la même occasion, vous verrez quelque part un endroit où le malade mange, où les accouchés, où les gens qui sont venus doivent être avec le malade. Ça signifie quoi? Je prends le même exemple. À l'époque, je vois l'hôpital général de référence de Kikwit, où il y avait les sœurs de pauvres. Quand vous les visiteurs, d'abord il y a une heure précise pour entrer pour les visites. Et quand les aides malades viennent et qu'ils entrent, si vous touchez le lit, là où on a placé le matelas, c'est comme une petite taxation. On vous punit en disant vous allez payer autant pour acheter le savon pour ça. Ça signifie que la mentalité des gens a commencé à changer à partir de ces petites mesures correctionnelles.
Oui.
Dans tous les hôpitaux, il faut que le personnel soignant insiste. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là, les habits des aides-soignants, les habits des malades. Il y en a qui apportent des punaises à l'hôpital. C'est pas le médecin, c'est pas l'infirmier qui a fait ça. Mais les gens viennent de l'extérieur et ils se mettent autour du lit à 10, à 20, rien que pour contempler le malade. Ça, ce sont des pratiques. Je ne pense pas que si vous allez en Gagnement, vous pouvez être 10 ou 8 autour d'un lit en train de contempler un malade. C'est pas un spectacle. Et là, il y a quand même des mesures qui font que les aides malades respectent ce qu'on a demandé. J'ai vu l'hôpital, la dernière œuvre là que je viens de voir de maman Olive. Quand vous regardez, au départ, c'est très propre. Si les gens qui vont travailler là-bas ne maintiennent pas les caps, et il y aura un laisser-aller, et en très peu de temps, on va le comparer à d'autres hôpitaux. Et regardez Mutombo Dikembe. Au départ, au début, c'est très, très... C'était vraiment le modèle américain, quoi.
Oui.
Mais, et là, je voudrais insister sur une chose, je dis, c'est vrai, il y a un problème de responsabilité aussi. Dans la plupart des hôpitaux, le ministère de la Santé a exigé qu'il y ait un point focal de l'hygiène et qu'il y a non seulement le rôle de circuler comme ça, mais qu'il y a le devoir de rendre compte au comité directeur de l'organisation de la surveillance et de l'organisation de l'hygiène à l'hôpital. Chaque semaine, il doit dire ça, il doit dire le problème qu'ils ont, il doit dire que ce soit par rapport à la logistique, que ce soit par rapport aux mentalités des gens,
oui.
Et quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour maintenir l'hygiène intra-hospitalière.
D'accord, on va accueillir John Tumba de Kananga. Bonjour John.
Bonjour Daniel Kachamon, c'est John Tumba depuis la ville de Kananga. Nous avons pu circuler dans la ville de Kananga, nous avons remarqué que, et surtout dans des hôpitaux qui se trouvent dans des hôpitaux publics, il y a un peu d'hystérie, mais surtout dans des hôpitaux privés, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'odeurs, et ces odeurs ici peuvent même créer certaines maladies infectieuses. Imaginez dans un centre de santé, vous verrez même beaucoup d'œuvres qui circulent, qui entourent les centres de santé, et même ceci parviennent à donner peut-être certaines maladies. Voilà un peu ma contribution par rapport à votre sujet, monsieur Daguerre.
Bien, merci. Docteur Anissé, qu'est-ce que vous pouvez dire à John Tumba?
Oui, dit à Ntumba que je crois, cela, c'est comme je l'ai dit, cela dépend de, du responsable de cette institution privée. Je gère aussi des institutions privées, mais je peux te le dire, je dis, chaque fois que le, les malades ou les gens qui passent par là, ils savent que l'équipe de médecins qui travaillent là-bas, mes collaborateurs, nos, même à l'hôpital général, ils savaient quand on entrait, la première des choses, c'est de regarder s'il y a un petit papier qui est tombé à côté. Et en ce moment-là, l'une des meilleures façons de, d'attirer d'ailleurs les malades vers l'hôpital, l'une des premières choses, en dehors de la qualité des soins, c'est la qualité de l'endroit où ils vont. Il faut pas qu'ils viennent dans un endroit. Je crois que c'est un problème qui tient surtout aux responsables de ces institutions privées. Mais en général, les règles, le ministère de la Santé publique, et surtout maintenant qu'on parle de la PCI, prévention, contrôle de l'infection dans les cas de COVID, c'est devenu encore, il y a des notions, l'OMS a tout donné, il y a des notions beaucoup plus claires. Le problème, c'est d'identifier notre propre intérêt, nous qui travaillons dans des hôpitaux. Je dis, j'ai eu du mal quand j'ai commencé à l'hôpital général pour dire aux gens, attention, un jour, nous risquons d'avoir un problème. Nous aurons des hépatites qu'on attrapera à l'hôpital. Nous aurons beaucoup de maladies sériques, beaucoup d'autres problèmes qu'on peut éviter, non seulement pour les malades eux-mêmes, mais surtout pour le personnel soignant. Soyons donc rigoureux avec la propreté, avec l'hygiène de l'hôpital. Et regarde, le jour où il y a eu Ebola, il y a des gens qui ont dit, mais celui-là, c'est un prophète de malheur. C'est ce que j'ai dit, c'est parce que mon passage aux États-Unis, partout, j'ai vu l'état dans lequel les hôpitaux sont. Mais c'est avant tout, c'est pas, peut-être pas une bonne comparaison, mais c'est avant tout l'appropriation de ce qu'on veut mettre à l'hôpital. Un médecin directeur rigoureux, la directrice de nursing, l'équipe de responsables dans tous les pavillons, les infirmiers eux-mêmes. Et ils peuvent pas se permettre de manger là où il y a la saleté. S'ils sont rigoureux, je crois que le malade va suivre, les aides-soignants vont suivre ce que l'hôpital, le personnel soignant va leur exiger.
Docteur Anissé, pour terminer, est-ce qu'il existe un service de contrôle de l'hygiène dans les hôpitaux?
Je dis oui, dans chaque hôpital, le ministère de la Santé a demandé qu'il y ait, j'ai dit, un point focal. Ce soit un hygiéniste, un responsable chargé de l'hygiène intra-hospitalière. Il est là, si ça n'existe pas, c'est une erreur. Et je crois, chez nous, par exemple, c'est pas de la blague. Il y a des gens qui viennent de l'inspection provinciale. Et d'ailleurs, c'était parmi les critères de la Banque mondiale dans le PBF. On évalue, je dis, à travers tous nos hôpitaux, il y a les PBF avec le FDSS, des gens qui passent pour voir dans ces critères-là d'évaluation. Tous les 3 mois, ils passent pour voir, entre autres, l'hygiène intra-hospitalière. Est-ce que les critères sont remplis? Et ils ont des cotations. C'est en fonction de cela que les gens reçoivent ce qu'on appelle le paiement basé sur la performance. Donc, le ministère de la Santé avec l'OMS et la Banque mondiale, il y a un programme qui doit viser exactement ce que vous dites là, à travers tous les hôpitaux de la République.
Pourquoi ne pas, par exemple, sanctionner le comité directeur, le médecin directeur, si on constate que dans son hôpital, c'est la crasse, c'est la saleté, pourquoi ne pas sanctionner?
Je dis, je parle des sanctions au niveau, je parle de niveau normatif, disons, au niveau de la hiérarchie. Mais dès le départ, maintenant, j'ai dit que une des premières sanctions, c'est par rapport à la cotation que les gens qui viennent administrer les PBF passent. Oui. C'est déjà une sanction. Je dis, vous ne serez pas heureux, vous êtes médecin directeur ou médecin responsable dans un hôpital, et qu'on vous dise que pour la salubrité, vous avez eu par exemple 10%. C'est déjà une sanction de vous donner un feedback en disant, monsieur, nous vous avons donné de l'argent pour tout ça, mais regardez, pour la salubrité, non seulement de l'espace de l'hôpital, et même le personnel soignant, quand ils sont mal habillés, ils sont sales, ils se négligent, ça signifie que la première sanction, c'est les gens qui viennent administrer le PBF. Et puis, Évidemment, l'autre niveau, c'est le niveau de la hiérarchie qui doit donner des sanctions par rapport à la performance de chaque équipe, de chaque comité directeur.
Bien, docteur Anissé Kipassa, expert en santé publique, merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci Jody, excellente journée.
Fidèles auditeurs, nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre l'insalubrité dans les hôpitaux publics de la RDC. Nous parlons également de la promiscuité. Alors ne partez pas, restez avec nous. On se retrouve dans la deuxième partie de l'émission juste après les informations. Nous allons poursuivre.
Les questions sur votre santé et celle de vos proches vous concernent. Retrouvez tous les jours les conseils de Radio Okapi à 8h56 et à 14h40, heure de Kinshasa, pour comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas. La chronique santé, c'est sur Radio Okapi avec UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population.
Bienvenue dans Okapi Service, c'est la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre l'insalubrité et la promiscuité dans les hôpitaux. En République démocratique du Congo, les conditions sanitaires et hygiéniques laissent à désirer dans la plupart des hôpitaux et autres centres hospitaliers. Les ordures et autres déchets médicaux sont visibles en certains endroits. Ces déchets peuvent dégager des odeurs nauséabondes. On déplore également la promiscuité. Les malades se partagent les lits et les gardes malades se débrouillent pour avoir une place où passer la nuit. Seuls quelques hôpitaux essayent de respecter les normes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour maintenir l'hygiène hospitalière et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la promiscuité dans les hôpitaux? On en parle à présent avec Dr Lesose Doudou. Il est directeur général honoraire de l'hôpital général des références de Gemena dans le nord Ubangi. Dr Lesose Doudou, bonjour.
Bonjour.
Alors la première question est de savoir, docteur, vous avez travaillé comme médecin directeur général honoraire à l'hôpital général des références de Gemena. Dites-nous, comment est-ce que vous avez assuré l'hygiène hospitalière au sein de cette formation médicale?
Ok, merci beaucoup pour la question. C'est une question vraiment très très importante à notre avis, du fait que nous avons eu de sérieux problèmes quant à la gestion de cet hôpital sur le plan salubrité. Nous avons eu d'énormes difficultés et on s'est battu pour faire quelque chose, mais ça demande vraiment des interventions. Peut-être nous allons évoquer ici quelques problèmes que nous avons eus. Et que nous pensons qu'en débattant et en mettant au lieu public et que les autorités qui nous écoutent, ils peuvent en tenir compte pour que la situation puisse changer au sein de nos hôpitaux.
Si les hôpitaux sont sales, certains disent que c'est parce que le comité directeur ou le comité de gestion ne veut pas mettre les moyens pour acheter les produits, pour motiver les techniciens des surfaces qui travaillent au sein de l'hôpital.
Oui, bon, avant d'y arriver, je voudrais vous présenter les différents problèmes dont nous faisons face au niveau des hôpitaux. Le problème, c'est le problème des moyens. Imaginez-vous, des hôpitaux généraux n'ont pas de frais de fonctionnement de l'État, hormis quelques hôpitaux qui sont peut-être appuyés par des partenaires. Mais il n'y a pas de frais de fonctionnement pour les hôpitaux publics. Alors, quand il n'y a pas de fonctionnement pour les hôpitaux publics, les maigres recettes qui sont générées au sein de l'hôpital, le médecin directeur ou alors le comité de direction de l'hôpital doit s'arranger pour subvenir aux besoins du personnel d'abord, en ce qui concerne la prise en charge du personnel. Et on doit signaler en passant que la plupart de nos hôpitaux, les personnes qui y fonctionnent, ce sont des nouvelles unités qui, quelques-uns, ont à peine quelque chose de la part du gouvernement central en termes de primes de risque, et beaucoup n'ont même pas de salaire. Alors, le peu de recettes qu'on est en train de générer au niveau de l'hôpital général de référence, on doit motiver ceux qui travaillent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en dehors de la motivation qu'on doit donner à ceux qui travaillent, il y a un problème de médicaments. Hein, nos hôpitaux ne sont pas approvisionnés régulièrement en médicaments. Donc, je parle ici, hormis quelques hôpitaux qui sont appuyés actuellement par des partenaires, ainsi de suite, mais d'une manière générale, il n'y a pas de médicaments que l'État envoie régulièrement au niveau des hôpitaux généraux. Donc, avec cette même recette locale, on doit penser à payer des médicaments, mais aussi penser au fonctionnement de l'hôpital. Alors, quand on voit cette maigre recette qu'on est en train de générer au niveau de l'hôpital général, on doit partager pour ces trois réalités. Donc, prendre en charge le personnel, payer les prix, acheter des médicaments et les frais de fonctionnement. Alors, allez-y comprendre quel montant on va en disposer pour pouvoir faire fonctionner correctement l'hôpital. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est en rapport avec la démographie. Vous voyez, beaucoup de nos hôpitaux généraux ont été érigés pour ne pas supporter la charge de cette population que nous avons aujourd'hui. La population a augmenté d'une manière exponentielle, mais nous gardons toujours le même hôpital qui était érigé pour prendre en charge une population à un nombre limité.
Oui.
Depuis que le nombre de la population augmente, on ne construit pas de nouveaux hôpitaux. Alors, on a obligé un hôpital de 100 lits qui continue à prendre un nombre élevé de la population, ça pose problème.
Donc, mais pourquoi, docteur, vous avez 100 lits, mais vous prenez plus de malades au point de mettre 2 ou 3 malades par lit?
Exactement. Et même parfois mettre des malades par terre. Alors, allez-y comprendre. Hein, si on doit mettre des malades avec des différentes pathologies, hein, si un même, et surtout les enfants, hein, on peut mettre 3-4 enfants sur un même lit, et parfois peut-être entre deux lits, jeter peut-être quelque chose à terre et mettre la part. Allez-y comprendre dans cette condition-là, parce qu'on doit recevoir les malades, on ne va pas refuser les malades. Mais on n'a pas augmenté la capacité d'accueil de l'hôpital, on fait avec. Donc, c'est ça la deuxième difficulté. Donc, il y a une augmentation exponentielle, n'est-ce pas, de la population, mais les constructions des hôpitaux n'ont pas suivi et l'augmentation du nombre de lits pour prendre en charge le malade n'ont pas suivi. Donc, voilà, c'est ça les difficultés qu'on a. Et troisième difficulté, c'est on n'a pas de personnel qualifié pour l'hygiène hospitalière. Donc, on essaie un peu de prendre des personnes de surface et on les adapte à la situation dans le milieu où on a. Et ils essaient de faire de quelque chose, mais on n'a pas de personnes qui ont une qualification requise pour, mettre de la propreté au sein d'un hôpital général. En tout cas, à peine, je ne sais pas si à Kinshasa, mais à l'intérieur du pays, ça pose un problème pour avoir des personnels qualifiés qui ont une bonne base, une formation requise pour maintenir l'hygiène au niveau des hôpitaux.
Oui.
Et bien, Docteur Doudou,
un instant, on va accueillir un auditeur. Éminent Mwanda de Bukavu, bonjour.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. C'est Emina Mwanda Sani, depuis la ville de Bukavu.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'insalubrité et la promiscuité dans les hôpitaux?
Vraiment, l'état d'insalubrité pour maintenant, surtout dans les hôpitaux publics, bat vraiment record. Vraiment, l'insalubrité est à son dernier étage dont nous observons partout et sur tous les niveaux. Il y a beaucoup d'insalubrité et même à ce qui concerne l'hospitalisation des patients, il y a même 2 ou 3 patients qui peuvent partager le même lit sans pourtant tenir compte de maladies et connaître chacun de ces patients-là. Et
Par conséquent, ces patients se partagent de maladies comme des habits.
Et éminent, ça se passe dans quel hôpital de Bukavu?
Vraiment, je prends l'exemple de l'hôpital général de référence.
Ouais, je pense que éminent, on a des soucis au niveau de la liaison téléphonique. On poursuit d'abord avec vous, docteur Doudou Lesozé. Je rappelle que vous êtes directeur général honoraire de l'hôpital général des références de Guémena. Alors, si vous recevez, vous savez que la capacité d'accueil est de 100 lits. Pourquoi prendre plus de malades? Bon, on me fait signe que Théophile est en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Théophile, par rapport à l'insalubrité et la promiscuité dans les hôpitaux?
Ouais, à mon avis, pour lutter à l'insalubrité, les corps soignants doivent d'abord s'occuper pour soigner les lits des malades, assainir la cour de leurs hôpitaux, préparer les matériaux après avoir utilisé, etc. La question, pourquoi les services qui s'occupent à ces travaux sont là juste pour bouffer de l'argent, mais il ne faut rien. Voilà,
merci,
c'est ça.
Merci Théophile de Kinshasa. Docteur Doudou, qu'est-ce que vous pouvez dire à Théophile?
Oui, ce que je peux répondre à l'auditeur, c'est que... Il pose la question de savoir que ceux qui sont là, ils bouffent l'argent, ils ne font rien.
Voilà.
Ouais. Ils bouffent l'argent, ils ne font rien. Je venais de vous expliquer
ce qui se passe.
Parce que quand les gens ne sont pas à l'intérieur de l'hôpital, ils imaginent beaucoup de choses. Ils pensent généralement que les hôpitaux génèrent beaucoup d'argent. Hein, et que ce sont les hôpitaux qui ne font rien. Moi, je pense que je venais d'expliquer par rapport aux moyens dont disposent les hôpitaux généraux. J'ai dit qu'il n'y a pas de subvention hein, en termes de médicaments et en termes de frais de fonctionnement. Alors, l'hôpital, en fait, ne fait pas de commerce sur le malade. Donc, c'est le maigre moyen qu'il a là, il doit faire face. Hein, en prenant en charge le personnel, parce que si le personnel est démotivé, donc il ne va pas donner le meilleur de lui-même, et par conséquent, ça pourrait avoir une répercussion négative sur la prise en charge de malades. Donc le peu de moyens que l'hôpital génère par mois, il doit être divisé en trois parties. Donc pour la prise en charge de personnel, achat de médicaments et les maigres là, s'occuper de fonctionnement, la salubrité y compris. Alors vous voyez, le fonctionnement de tout l'hôpital avec ces maigres moyens-là, donc ça ne suffit pas. Et c'est plutôt le problème de l'insuffisance de moyens, mais ce n'est pas parce que les gens ont des moyens et qu'ils refusent hein, de mettre ces moyens à ce travail de salubrité au niveau des hôpitaux.
Docteur Lesozé, lorsque vous étiez à la tête de l'hôpital général des références de Guémena, combien ça vous coûtait par exemple? Pouvez nous donner une idée combien la salubrité demandait, combien il fallait mobiliser pour l'entretien, pour l'hygiène au sein de l'hôpital?
Mais l'hôpital général de référence de Guémena, c'est un hôpital qui était réfectionné en fait et que après la réfection de l'hôpital, il n'était pas équipé comme il se devait. Alors quand l'hôpital est réfectionné et qu'il n'y a pas d'équipement, donc il faudrait s'arranger par des moyens de bord pour faire fonctionner effectivement l'hôpital. Mais pour assurer bien la salubrité au niveau de l'hôpital général de référence de Guémena, ça ne peut pas être quelque chose de 20 millions de francs congolais par mois, quelque chose qui était loin d'être atteint. Donc à ce moment-là, on peut que faire avec ce qu'on a sous la main, malheureusement.
20 millions de francs congolais par mois pour l'entretien.
En principe, s'il faut maintenir vraiment la salubrité comme il se devait.
Voilà, et donc, À cause des maigres, l'hôpital n'avait pas de frais de fonctionnement. Et comment vous vous débrouillez pour entretenir l'hôpital?
Oui, mais c'est ça ce que je vous dis. C'est qu'on ne fait pas correctement ce qu'on devait faire. Parce que maintenant, du fait pour entretenir l'hôpital, on a eu à recruter le personnel de CIFAS qui, du reste, n'ont pas une formation à cette manière pour chaque matin pouvoir mettre des propriétés dans le pavillon, mais aussi ceux qui devraient débroussailler tout autour de pavillon et tout autour de l'hôpital et le prendre en charge, parce que c'était aussi des gens qui n'étaient pas reconnus d'ailleurs à ce moment-là par l'État, donc ils n'étaient pas pris en charge par l'État, donc il fallait les utiliser et toujours voir comment subvenir à leurs besoins sur le peu que l'hôpital régénérait. Donc, on prenait des gens qui, chaque matin, sont là dans les pavillons en train de mettre nettoyer les surfaces, mettre de la propreté dans le pavillon, et d'autres personnes qui étaient en train de broussailler tout autour du pavillon, et y compris l'extérieur de l'hôpital.
Et généralement, ces techniciens de surface, c'est des personnes âgées, des papas et des mamans qui ont pris de l'âge et qui n'ont plus assez d'énergie pour faire ce travail-là, parce que l'entretien, la propreté demande beaucoup d'énergie.
Exactement, exactement. C'est d'ailleurs ça la situation.
Bien, on va accueillir Pierrot de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs fidèles de la radio Kati.
Pierrot, Oui, allez-y, Pierrot.
Oui, c'est Pierrot Pagnan. Je suis à Lubumbashi, un professionnel de santé aussi.
Oui.
Je suis éclairé lorsque nous regardons la politique sanitaire aujourd'hui qui n'est pas respectée. Vous savez, je dis, pour que les hôpitaux soient construits, il y a une politique que nous ne suivons pas. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les hôpitaux publics, c'est alarmant aujourd'hui.
Quelle est la situation? Quelle est la situation à l'hôpital général de référence de Sendoué à Lubumbashi?
Je vous ai dit bien que si les hôpitaux publics sont insalubres, c'est par la faute de la hiérarchie du ministère de la Santé. Vous savez ce que je dis? Au ministère de la Santé, il y a six directions. Dans les six directions, nous travaillons, nous, les professionnels de santé, nous voyons que le ministère se focalise sur les organismes qui financent. Mais d'autres branches, ici, on ne sent pas quelque chose. D'abord, la politique, là. Vous pouvez imaginer, ici, à Lubumbashi, si on prend 20 ans après, il y a des gens de l'Afrique du Sud qui venaient se faire soigner ici, chez nous, à la clinique universitaire ici. Mais ces gens-là n'arrivent pas. Ils nous ont volé même le médecin. Allez en Afrique du Sud, vous allez trouver le médecin du choix. Qui sont là, ce sont eux qui soignent.
Alors, Pierrot, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait l'hygiène au sein de nos hôpitaux? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Quelles sont vos propositions?
D'après moi, premièrement, il faut que d'abord maintenir l'équipe, voir dans chaque service qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va mieux. Alors, commencer à payer régulièrement ceux-là qui sont là-bas, voir le recrutement. Le recrutement est fait de telle façon. C'est commencer par là et chercher les bons gestionnaires. Éviter les choses de lorsque vous avez peut-être la direction. Vous cherchez les gens que vous connaissez, mais qui ne s'y connaissent pas. Il faut commencer d'abord par restructurer cet hôpital-là. Après restructurer, on verra comment mettre de l'ordre, chercher à utiliser ce que les organismes financent. D'accord. C'est commencé d'abord par ça.
Merci. Merci Pierrot. On va donner la parole à Munganga John depuis Bouta. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
John, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir l'hygiène au sein de nos hôpitaux?
Oui, merci d'abord pour la parole. Moi, je pense que au-delà de tout ce que mon prédécesseur vient de dire, les problèmes de soins dans nos hôpitaux, c'est d'abord les problèmes de prise de conscience. Les gestionnaires de nos hôpitaux doivent prendre conscience de ce qu'ils sont appelés à faire Parce que ce que nous observons dans nos hôpitaux, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ici là où moi j'interviens, c'est presque partout dans notre pays. Il y a quand même l'effet de fonctionnement. Il y a des patients qui les enregistrent et ces patients-là payent de l'argent. Et ce que nous observons, c'est quoi? Les gestionnaires de ces hôpitaux espèrent construire des maisons, préfèrent acheter des voitures, préfèrent même construire leur propre centre de santé et orienter les malades, les patients dans leur centre de santé au détriment de l'hôpital de l'État. Et conséquence, c'est quoi? Ils ne prennent pas vraiment au sérieux la salubrité au sein des hôpitaux qui sont appelés à gérer. Mais ils préfèrent orienter les patients dans leur centre de santé et ils font de l'argent pour leurs propres affaires, au détriment même de ceux qui travaillent dans ces hôpitaux-là. Donc, c'est le problème de prise de conscience. Si les gestionnaires de nos hôpitaux ne prennent pas conscience, donc on peut discuter autour de ces sujets. Une année, deux ans, trois ans, il n'y aura pas un changement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ce que moi j'ai observé, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a quand même l'esprit là d'initiative et de travailler dans le bon sens, il y aura toujours déjà à côté de lui qui vont lui dire que nous sommes Congolais, nous avons l'habitude de dire Yonoko Bongisambo Kao. Donc on vous décourage de faire le bon pour continuer avec le même système là de détriment alors que ça ne bénéficie à rien. Nous allons crier matin, midi, soir, il n'y aura pas un changement dans nos centres de santé ou dans nos hôpitaux.
Merci John Munganga de Bouta. Docteur Lesose, vous avez suivi, on accuse les gestionnaires des hôpitaux de mégestion et pourtant ils pouvaient, avec les maigres moyens, s'organiser pour entretenir les hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Oui, merci beaucoup. Je salue l'auditeur. Je crois que le système de santé est bien organisé et à son sein, il a mis en place un système de contrôle. Et que si chacun faisait normalement son travail, alors le problème que l'auditeur est en train de décrire ne pouvait pas exister. Du fait que au niveau de chaque division professionnelle de la santé, il y a une inspection provincial de la santé qui est là pour ce contrôle-là des problèmes de mégestion dont il fait allusion. Hein, du fait que s'il y a un problème de mégestion et que les inspections provinciales de la santé font correctement leur travail, ils peuvent dénicher cette mégestion dont il fait allusion et sanctionner. Et à ce moment-là, il y aura de l'ordre et si un médecin directeur, un comité directeur qui a mal géré et qui est sanctionné, on pense que c'est lui qui viendra, ou alors le nouveau comité directeur qui viendra, après lui, là, pourra prendre des dispositions que mes prédécesseurs ont été sanctionnés à cause de mes gestions, et il pourra essayer de faire des choses autrement. Donc, peut-être ce que je peux dire à cet auditeur est une recommandation, dans le sens qu'il faudrait que chacun fasse correctement son travail. Il faudrait que les inspections mais provincial de santé puisse aussi faire réellement le travail de contrôle et sanctionner si mes gestions, il y en a peut-être certains problèmes particuliers dans certains hôpitaux, mais ce n'est pas en fait d'une manière générale. Ce que je peux dire est à qualité de quelqu'un qui a géré l'hôpital, c'était plus un problème de manque de moyens dont notre comité directeur a fait vraiment face durant notre mandat où on était à la tête de cet hôpital. Mais je crois que chacun fasse normalement son travail, que les inspecteurs fassent correctement leur travail, alors on va sanctionner tous ces détourneurs-là qui sont en train de prendre, comme dit cet auditeur, les histoires de l'hôpital pour leur propre bien. Et à ce moment-là, je pense que les choses pourront marcher. Si c'est ça la raison de mauvaise salubrité au niveau des hôpitaux.
Bien, Munganga John de Bouta nous dit que c'est aussi un problème de prise de conscience des gestionnaires. Même avec le peu de moyens, les peu de recettes qu'on génère, on peut s'organiser pour mettre de côté une partie pour la propriété.
Bon, le problème de conscience, oui. Le problème de conscience, c'est qu'on dit, on dit que c'est vrai, mais c'est difficile de juger la conscience de tout un chacun. Mais dis-moi, quand on est gestionnaire d'une institution publique de l'État, il y a des normes qui vous régissent. Parce que c'est difficile d'appeler la conscience de quelqu'un. La conscience, c'est un problème individuel, un problème de l'éducation. Mais dis-moi, si on respectait les textes à la matière, on va obliger celui qui n'a pas une bonne conscience de pouvoir respecter les normes quand on est gestionnaire de biens publics de l'État. Moi, je pense que le problème se situe surtout à ce niveau-là, le problème de contrôle et de sanctions. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, et ceux qui gèrent mal et ils sont toujours là, je pense que le problème ne sera pas résolu parce que on ne va pas l'obliger à revenir au bon sens. Parce que c'est difficile de juger la conscience déjà, mais moi je pense que c'est question d'utiliser les normes, les termes, les contrôles et sanctionner positivement pour ceux qui travaillent bien et négativement pour ceux qui sont en train de mal gérer les biens publics de l'État. Voilà.
Comment lutter contre l'insalubrité dans les hôpitaux publics, dans toutes les formations médicales? Alors dites-nous, docteur, vous avez eu à gérer un hôpital général de référence pendant plusieurs années. Avec votre expérience, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a l'insalubrité, il y a tous ces problèmes que nous avons décriés, il y a aussi la promiscuité. Alors en tant qu'ancien gestionnaire d'une formation médicale, qu'est-ce qui doit être fait concrètement aujourd'hui pour améliorer la salubrité, améliorer l'hygiène dans nos hôpitaux?
Merci beaucoup. Premièrement, il faut commencer à donner les frais de fonctionnement aux hôpitaux. Parce que sans frais de fonctionnement, en tout cas, la gestion de salubrité au niveau des hôpitaux vont toujours poser des problèmes. Et alors, quand l'État commence à mettre à la disposition des hôpitaux des frais de fonctionnement, et à ce moment-là, il faut contrôler si ces frais de fonctionnement mis à la disposition de ces hôpitaux-là ont servi à ce travail-là. C'est ça la première chose. Donc, commencer par mettre ces frais de fonctionnement au niveau des hôpitaux. Deuxième chose, il fallait construire d'autres hôpitaux. C'est parce que je vous ai dit qu'il y a un problème sérieux de démographie. Hein, la population a augmenté et que les hôpitaux sont restés le même. Donc ça pose un problème. Commencer à construire d'autres hôpitaux et à ce moment, ça va augmenter le nombre de lits par rapport à la population et les problèmes de promiscuité sera résolu. Donc on ne sera pas obligé de mettre plusieurs malades sur un même lit, parce que maintenant, il y aura un peu d'autres hôpitaux et des hôpitaux secondaires là où ça peut bien prendre en charge les malades.
Mais pourquoi, lorsque les malades arrivent, oui, on peut interner certains, d'autres peuvent suivre des soins ambulatoires?
Oui, mais c'est ça. Ça c'est connu. Quand un médecin décide d'hospitaliser le malade, c'est que son état ne nécessite pas qu'on le suive en ambulatoire, mais sinon tout ce qui état nécessite le suivi en ambulatoire, on le fait. Mais ce dont je dis, on le met 3-4 au lit, ce sont des malades qui nécessitent qu'ils soient suivis en hospitalisation et qu'il n'y a pas de place. Donc à ce moment-là, on ne peut pas envoyer un malade dont l'état est grave et qu'on doit suivre au niveau de l'hôpital pour rentrer à la maison.
Mais maintenant, quand on met 2-3 malades sur un même lit, comment ça s'est fait concrètement? Parce qu'ils peuvent avoir des pathologies différentes. Est-ce qu'il n'y aura pas co-infection quelque part?
Ouais, généralement, les médecins tiennent compte de cet aspect des choses. Quand bien même, nous ne sommes pas en train d'encourager ça. Hein, nous ne sommes pas en train d'encourager, mais comme on est devant une situation, on doit agir. On doit faire tout pour que les patients puissent avoir le traitement. Mais sinon, on tient compte pour éviter de mettre, si même dit, le patient avec des maladies contagieuses, n'est-ce pas? On s'arrange pour que, si c'est une maladie qui peut être transmise à un autre malade, on n'est pas obligé de mettre ces malades sur le même lit. Et à ce qui nous concerne précisément à Guéména, surtout, on a ces cas-là plus chez les enfants. hein, qui viennent nombreux avec un problème d'anémie dû au paludisme. Alors maintenant, il n'y a pas d'espace pour les enfants et on est obligé de les mettre ici, beaucoup de lits pour les donner de transfusions. C'est surtout dans ces cas-là que nous sommes en train de mettre le... Mais si ce sont des maladies transmissibles, des maladies qui peuvent contaminer l'autre, donc on prend des dispositions pour mettre le malade seul sur son lit.
Alors, quand vous le mettez beaucoup d'enfants sur un même lit, dans une seule pièce, ça veut dire que les mamans seront là aussi, ce qui augmente le nombre de personnes dans la pièce.
Exactement, exactement, c'est toute cette difficulté-là. Parce que les mamans doivent être à côté, pour les enfants, quand on met quatre enfants sur un même lit, donc on suppose qu'il y aura quatre mamans aussi à côté, et voilà toute la problématique qu'on a.
Bien, vous avez dit pour résoudre ce problème, premièrement, il faut doter les hôpitaux des frais de fonctionnement. L'État doit doter les hôpitaux des frais de fonctionnement. Le contrôle, l'inspection provinciale doit également effectuer les contrôles régulièrement pour voir si l'entretien s'est fait correctement. Troisièmement, vous avez dit il faut construire d'autres hôpitaux et vous étiez en train de d'énumérer d'autres choses à faire. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre?
Construire d'autres hôpitaux et les équiper convenablement. Construire des hôpitaux, c'est une chose, mais les équiper en est une autre. Parce que je vous ai parlé de la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Guémena, par exemple. L'hôpital a été réhabilité, mais il n'était pas équipé. Hein, on a suivi à la radio, on a vu dans des images qu'il y avait des équipements de l'hôpital général de référence de Guémena. Hein, mais ces équipements n'ont jamais arrivé à Guémena. Donc c'est ça aussi, c'est que nous décrions. Donc et la hiérarchie, chaque fois quand il réhabilite l'hôpital, il fallait qu'il aille au bout de la logique en dotant cet hôpital réhabilité des matériels. Donc c'était la troisième chose. Mais quatrième chose, il faudrait des personnels qualifiés. On peut mettre de frais de fonctionnement à la disposition de l'hôpital. On peut équiper l'hôpital, on peut faire tout ce qu'on a recommandé si haut là, mais si on n'a pas de personnel qui ont une formation de base pour l'hygiène hospitalière, alors peut-être on va le faire, mais pas correctement. Donc il faudrait qu'on puisse aussi au niveau des hôpitaux généraux de référence commencer à recruter ou alors affecter des gens qui ont une formation de base en rapport avec l'hygiène hospitalière. Et quatrièmement, nous avons aussi le devoir de sensibiliser nos patients, parce que surtout dans les hôpitaux comme par exemple à Guémena, parce que c'était un hôpital dans un milieu urbano-rural, donc on est en train de recevoir les patients qui viennent parfois de milieux ruraux et que les installations sanitaires qui viennent retrouver au niveau de l'hôpital, ce ne sont pas les installations qu'ils utilisent chez eux quand ils sont au village. Et quand ils viennent,
oui,
alors ça pose sérieusement des problèmes d'utilisation des installations sanitaires et même des gestions des ordures, des immondices et des déchets. Hein, donc ça pose sérieusement des problèmes. Donc c'est aussi un devoir de pouvoir sensibiliser, quand bien même on le fait, mais c'est difficile aussi parce que les gens viennent vraiment de partout et ça pose des problèmes quant à la gestion de gens qui viennent et qu'ils sont en face des matériels qu'ils n'ont jamais utilisés là où ils venaient, et ils viennent les retrouver à l'hôpital. Et que la gestion vraiment pose problème par rapport aux installations et la gestion des immondices et même des déchets liquides et solides.
D'accord, vous essayez de gérer tout ça comme ça. Donc on retient que ce problème d'insalubrité dans les hôpitaux, ça demande beaucoup de moyens et il revient au gouvernement de pouvoir de doter les hôpitaux des moyens pour l'entretien. Mais quelqu'un a dit, c'est pas seulement un problème de moyens, c'est un problème de mentalité, un problème de prise de conscience, parce que quand les gens sont habitués à la saleté, bon, ils s'y plaisent, donc ils sont à l'aise dedans.
Oui, mais c'est ça. Si je parlais de la sensibilisation, il faut qu'on puisse sensibiliser la population. La population, quand ils viennent à l'hôpital, Et il y a des instructions qui sont affichées et au niveau de différents pavillons, on les sensibilise. D'ailleurs, la première chose quand on reçoit un malade qui vient en hospitalisation, on lui donne toutes les informations comment les choses fonctionnent. Mais malheureusement, avec notre population et avec le différent niveau d'instruction, ça pose un problème de mise en pratique de toutes les instructions qu'on leur donne quand on les reçoit au niveau de l'hôpital. Mais j'insiste, c'est le problème de conscience, le problème de changement de mentalité. Quand on utilise les normes, on fait bien, on contrôle bien et on sanctionne, moi je pense que le problème sera résolu. Mais si on laisse à l'appréciation de chacun pour que sa conscience travaille, donc on n'aura pas beaucoup de gens qui ont une bonne conscience de faire correctement leur travail. Il y a des gens qui veulent qu'on soit toujours derrière et qu'on contrôle, on sanctionne et il y aura de l'ordre. Je n'exclus pas ce qu'il dit, c'est une interpellation que nous acceptons, mais moi je pense que quand on est en train de gérer la chose publique de l'État, il y a des normes qu'on doit respecter et on doit suivre et il y a des contrôles au cas où la personne ne respecte pas les normes. Elle doit être sanctionnée, comme ça on va remettre tout le monde en ordre et on va réduire tant soit peu le dérive qu'on est en train de remarquer par rapport à la gestion des formations médicales.
Bien, docteur Doudou Lesossé, directeur général honoraire de l'hôpital général de référence de Guémena dans le nord Oubangui, merci et excellente journée.
Oui, merci bien. Je voudrais rectifier que l'hôpital général des références de Guémena se trouve dans le sud Oubangui. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Bien, donc c'est plutôt dans le sud Oubangui. Merci, à la prochaine.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Comment lutter contre l'insalubrité et la promiscuité dans les hôpitaux? Nous avons en ligne docteur Akele, Cathy Akele, qui est médecin directeur de la pédiatrie de Kalembelembe. Docteur Cathy Akele, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de l'insalubrité dans nos hôpitaux et de la promiscuité dans nos hôpitaux. D'après vous, qu'est-ce qui est souvent à la base de cela? Les gens accusent les gestionnaires des hôpitaux de recevoir des fonds, mais ils négligent l'hygiène hospitalière. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Bon, déjà, quand ils disent que les hôpitaux reçoivent des fonds par rapport à l'hygiène, c'est pas vrai. C'est en tout cas dans les hôpitaux publics, c'est un peu chaque hôpital qui doit s'organiser avec les petites recettes que nous avons pour organiser un système pour l'hygiène hospitalière. Donc nous avons dans chaque hôpital, normalement, on a un comité d'hygiène qui s'occupe avec la direction de gérer un peu tout ce qui concerne l'hygiène, le nettoyage des salles, des cours de l'hôpital et tout ça. Et donc, et nous dépensons, en tout cas chez nous à Kalembelembe, nous dépensons beaucoup d'argent chaque mois pour l'hygiène, parce que nous devons acheter tout ce qui est javel, savon. Nous avons une équipe, en dehors du comité d'hygiène, on a une équipe de personnes qui s'occupent de nettoyer. Donc les gens sont partagés par secteur. Il y en a qui nettoient à l'extérieur, il y en a aussi qui nettoient à l'intérieur des salles. Mmh. Il y a d'autres... certaines tâches sont organisées avec les différents chefs de service, des différents services. Par exemple, pour nettoyer les vitres, le nettoyage des lits et du matériel, ça ce sont les infirmiers qui le font, parfois aidés par les stagiaires quand ils ont des stagiaires. Donc c'est un peu ça. En plus de ça, on a un incinérateur pour la gestion des déchets, parce que la gestion des déchets hospitaliers est particulière. C'est particulier. on ne gère pas les déchets d'un hôpital comme on gère les déchets ménagers.
Oui.
Donc là aussi, nous avons un incinérateur. Le grand problème qu'on a par rapport à ça, c'est l'évacuation de ces déchets à partir de l'hôpital vers l'extérieur. Nous devons payer nous-mêmes les entreprises qui s'occupent d'évacuer ces déchets pour aller les jeter à l'extérieur. Surtout nous, on a un petit espace. Donc à l'intérieur de l'hôpital, on a un enclos où on rassemble les déchets. Bien sûr, après les avoir gérés comme il faut.
Mmh.
Donc ça, c'est par rapport à l'hygiène. Bon, on a des points d'eau. Hein. Déjà avec le Covid, on a multiplié, en dehors des robinets qu'on a dans les salles ou un peu à l'extérieur, on a multiplié des points d'eau avec des seaux robinets et des bassins. Alors, le grand problème qu'on a aussi, c'est notre population. On a une population qui n'a pas du tout, ou en tout cas qui a très peu de notions d'hygiène. Vous pouvez bien leur dire, vous mettez des poubelles pour qu'ils jettent leurs déchets dedans, mais vous allez voir des gens qui ils ont bu, ils ont mangé, les enfants ont mangé.
Ils jettent
par terre.
La poubelle
est là, mais ils jettent par terre. Mmh. Et il faut tout le temps leur rappeler, les rappeler. Bon, en dehors de ça, de tout ce qui est nettoyage, on a aussi la dératisation et la désinsectisation qu'on fait selon un calendrier. Et ça, c'est géré par le comité d'hygiène. Et donc, là, voilà, là, je parlais de notre population qui
oui.
nous donne vraiment du fil à retordre par rapport à l'hygiène.
Docteur Cathy, par oui. exemple, chaque oui. mois, ça, vous mobilisez combien pour l'hygiène?
Bon, j'ai pas ça en tête, malheureusement. J'ai pas ça en tête.
Même à estimation, oui. vous pouvez estimer à combien les frais mobilisés pour l'hygiène?
Ah, en tout cas, c'est beaucoup d'argent, hein. Je ne sais pas. Parce que chaque mois, il faut acheter tout ce qu'il faut, en dehors du matériel pour le nettoyage, en dehors de tout ce qu'on prend, tout ce qu'il faut aussi. Pour l'entretien de l'incinérateur, déjà rien que pour l'évacuation des déchets, nous payons $300 par mois. Alors, pour le reste, sincèrement, peut-être que je pourrais m'informer auprès des services de comptabilité pour à peu près combien. Mais là, franchement, j'ai pas ça en tête.
On peut retenir que le tien, ça mobilise beaucoup d'argent.
Ça mobilise beaucoup d'argent. Si on veut vraiment, parce qu'il y a aussi le nettoyage des toilettes, donc il y a pas mal de choses. Ça demande beaucoup d'argent. Si je compte en plus le personnel qui s'occupe de l'entretien, là, et du nettoyage qu'il faut payer, donc ça fait beaucoup d'argent quand même.
Mais certains ont dit dans cette émission que les hôpitaux reçoivent, même si l'État ne donne pas les frais de fonctionnement, mais il y a des partenaires qui apportent des financements à gauche, à droite. On pouvait.
Ben, qui viennent nous dire quels sont ces partenaires et que ces partenaires aillent dire à qui ils donnent de l'argent. C'est vrai qu'il y a parfois des partenaires qui viennent. Par exemple, chez nous, il y a des partenaires qui sont venus pour nous dire, nous proposer de nous aider pour l'hygiène. Mais jusqu'à présent, on les a pas vus. C'est juste, bon, ils ont cette intention-là, c'est resté au niveau des intentions. Mais en tout cas, en pratique, on les a pas encore vus. Je ne veux pas citer les noms,
mmh.
mais on a eu des partenaires qui sont venus nous proposer, mais jusque-là, on n'a rien vu.
Bien, on va accueillir un auditeur, Jeff de Kananga. Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur Jodi, et bonjour
oui,
pour la promiscuité.
Oui, je reviens à vous, le temps d'accueillir cet auditeur.
Ah, d'accord.
Oui, je reviens à vous tout à l'heure. Jeff, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est la question que vous adressez à docteur Akele par rapport à l'insalubrité dans les hôpitaux?
Oui, monsieur Jodi, la première des choses, si vous avez bien constaté mon commentaire sur Facebook, j'ai dit que le problème de l'insalubrité, c'est une affaire de tout le monde au sein d'une formation médicale. Au moment où je vous parle, ce n'est pas parce que je suis un théoricien, mais je suis un praticien, je suis un administrateur gestionnaire d'une institution de santé. C'est pour dire que lorsqu'il y a l'insalubrité au sein d'un hôpital, ça signifie qu'il n'y a pas les soins de qualité. Il n'y a pas de soins de qualité. Or, pour bien lutter contre cette insalubrité, il faut qu'il y ait d'abord la discipline au sein de la formation sanitaire. Cette formation et cette discipline doit être instaurée par qui? D'abord, l'administrateur gestionnaire et le médecin directeur. C'est pour cela que j'ai dit que en milieu hospitalier, on n'a pas seulement la visée de voir l'argent à mettre dans la poche, mais d'abord chercher le soulagement des malades qui viennent pour solliciter les soins de qualité au sein de notre institution. En matière de salubrité publique, le cours que nous avons étudié, on nous dit de voir d'abord l'écologie. Quand on parle de l'écologie, on voit d'abord la qualité en premier lieu et en second lieu, on voit maintenant l'économie. On cherche maintenant les finances.
D'accord.
Lorsqu'on...
Jeff, on retient qu'il faut la discipline et tout doit passer les comités de gestion qui doit normalement assurer cette hygiène.
Oui, monsieur Yodi, oui. Je voudrais terminer mon raisonnement.
Oui.
Oui, je dis que lorsqu'il n'y a pas la discipline d'hygiène, selon ce que l'intervenant a dit, l'invité a dit, il dit que des fois les malades ne sont pas éduqués sur base de l'éducation. Bon, non, je vois faux ce qu'il dit là. Pourquoi? Parce que la discipline doit être installée avant l'arrivée du malade. Lorsque les malades arrivent au sein de l'hôpital, on doit les former. On a des affiches, on a des communiqués. On dit des fois à Chiluba, l'hôpital du Lueto, ne manque rien. On dit ça par exemple dans une langue qui est comprise par tous les malades. On doit informer à chaque instant. Il faut qu'il y ait une discipline pour que les hôpitaux aujourd'hui soient propres. Ce n'est pas un milieu où on doit héberger les cochons, les porcs, les bêtes non plus. C'est un milieu où on donne les soins de qualité.
Voilà, je disais par rapport à l'insalubrité, bien sûr, dans les hôpitaux, beaucoup plus dans les hôpitaux publics. Je disais cette responsabilité est partagée, bien sûr, entre les gouvernements et les gestionnaires des dites institutions. Alors, vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les gouvernements ne songent pas à doter, à donner les frais de fonctionnement à ces institutions sanitaires. Et malheureusement aussi, nous constatons qu'il y a une mauvaise gestion de la part de gestionnaires, permettez la tautologie, bien sûr, qui gèrent ces institutions sanitaires. Alors, la responsabilité devient partagée. D'un côté, il y a les gouvernements qui n'arrivent pas à tirer sa responsabilité pour pratiquement faire les suivis, mais aussi
Valérie. Alors, pour aller rapidement, c'est quoi la question que vous adressez à Dr Akele, qui est gestionnaire d'une formation médicale?
Voilà. Deux questions me viennent en tête. La première, c'est de savoir concrètement quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre au niveau des établissements sanitaires pour la gestion des insalubrités, parce que on constate que dans la plupart des cas, il y a une certaine négligence. Et cette négligence, bien sûr, comme je le disais, la responsabilité est partagée, mais concrètement, quelles sont les stratégies mises en œuvre? Et la seconde question, c'est de savoir comment le gouvernement assure les suivis et au travers de quels services, parce que on voit les services d'assainissement, mais qui n'arrivent pas, bien sûr, à pallier à cette insalubrité, chose qui nous pose problème. Voilà.
D'accord, merci.
Donc, deux questions.
Merci Valérie de Kananga. Docteur Cathy Akele, vous avez la parole.
Bon, par rapport à ce que le premier monsieur a dit, c'est vrai que la qualité des soins a plusieurs volets. Hein. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans la qualité des soins, et notamment l'hygiène et la propreté dans un hôpital. Ça, c'est capital. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les malades viennent pour un problème et puis qu'ils en sortent parce qu'ils ont été infectés par le soin qu'on leur a donné, parce que ces soins n'ont pas suivi l'hygiène comme il fallait. Donc ça, il a raison. Par rapport à ce que les questions du second auditeur, alors les stratégies que nous avons, comme j'avais dit tout à l'heure, on a un comité d'hygiène qui s'occupe de voir un peu tous les problèmes qui concernent la salubrité, l'hygiène, les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qu'on attrape à l'hôpital.
Oui.
Tout ça, l'hygiène des mains et tout. Et donc, qui travaille avec le comité directeur. Donc, le médecin directeur, l'AG, donc l'administrateur gestionnaire et tous les autres membres du comité directeur. On a un budget, comme je vous avais dit, malheureusement, j'ai pas ça en tête.
Oui.
Donc, on met en place un budget parce qu'il faut acheter non seulement le matériel, mais aussi tous les produits qui sont nécessaires pour l'hygiène. De temps en temps, les toilettes se bouchent, il faut les déboucher, il y a les incinérateurs qu'il faut...
Docteur Cathy, parlons de la promiscuité. On dit que dans les hôpitaux aujourd'hui, selon les informations reçues, vous mettez parfois 2-3 enfants sur un même lit, les mamans sont également, beaucoup les pavillons sont surpeuplés. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets?
Bon, moi je vais parler, pas pour tous les hôpitaux, je vais parler pour notre hôpital, l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe.
Oui.
Nous, le seul endroit où il nous arrive de mettre 2 enfants par lit, c'est en soins intensifs. C'est un petit service, on a 9 lits, dont 4 grands lits et 5 grands berceaux. Dans les berceaux, on ne met jamais 2 enfants par lit. Il nous arrive, dans les grands lits, quand on a des petits enfants, parce que les soins intensifs, c'est là où on reçoit les enfants les plus gravement malades, ceux qui sont en coma, ceux qui convulsent, ceux qui respirent mal, déshydratés et tout. Et parfois, on est plein, quand on leur demande d'aller ailleurs, il y a des parents qui refusent, qui préfèrent rester là, et on ne peut pas les chasser de l'hôpital. Donc, quand on a une place dans un grand lit pour 2 petits-enfants, on les prend en charge là, mais dans les autres services, nous ne mettons jamais 2 enfants par lit.
Alors, solution, c'est quoi? Il faut augmenter la capacité d'accueil au niveau des urgences.
Bon, les soins intensifs, c'est particulier, parce que là, on a quelques matériels pour prendre en charge ces enfants qui sont gravement malades, qui peuvent avoir besoin d'oxygène, d'être transfusés, donc d'avoir des traitements par aérosol, d'avoir une surveillance vraiment très rapprochée. Et c'est dans ce service-là. C'est vrai que nous avons un projet d'agrandir ce service, mais il faut avoir les moyens. Les moyens ne suivent pas. On a ce projet-là, on voudrait bien agrandir ce service qui nous a aidé à diminuer nettement notre taux de mortalité qui aujourd'hui qui varie entre 2 à 3%, alors qu'il y a plusieurs années, c'était autour de 20%. C'est grâce à ce service-là. Nous voulons bien l'agrandir, mais on n'a pas les moyens. Donc, le jour où on aura les moyens, on agrandira pour qu'on ne puisse pas mettre 2 enfants dans un même lit dans ce service. Mais sinon, dans tous les autres services, quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, on transfère les enfants ailleurs. Bon, là, comme c'est des services un peu à froid, les enfants peuvent aller ailleurs sans que leur vie soit mise en danger. En néonatologie, par exemple, aussi, nous avons 16 lits et là-bas, nous ne mettons jamais 2 nouveau-nés dans une même couveuse ou dans un même berceau. Quand c'est plein, bah, nous sommes obligés de transférer les enfants ailleurs.
Bien. Docteur Cathy Akele, médecin directeur de l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe à Kinshasa, merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Conservez le citron et la tomate plus longtemps. Thérèse Kankou, vous nous donnez aujourd'hui des astuces pour conserver le citron et la tomate le plus longtemps possible.
Les citrons frais ne se conservent pas éternellement. Au bout d'un moment, ils flétrissent et pourrissent même quand on les conserve dans les frigos. Heureusement, il existe un truc pour les conserver frais et juteux plus longtemps. Prenez un bocal en verre avec couvercle, placez les citrons non coupés dedans, remplissez les bocaux d'eau fraîche au robinet, refermez le bocal et placez-le dans les frigos. Vous allez pouvoir garder vos citrons frais et juteux pendant des semaines entières. Et pourquoi cette astuce marche? Car la peau du citron se referme au contact de l'eau. Résultat, cela empêche la peau du citron de se dessécher. En ce qui concerne la tomate, nombreux sont ceux qui la conservent au frigo, chose qu'il ne faut pas faire justement. Le froid fait perdre aux tomates tout leur goût, quelle que soit la saison. Placez plutôt vos tomates dans un panier ou dans un saladier afin d'éviter qu'elles ne s'abîment en quelques jours. Évitez de les placer près de votre fenêtre. Les changements de température les feraient ramollir et pourrir. Elles éviteront en plus les soleils qui le feraient mûrir trop vite. Autre astuce, ne lavez vos tomates qu'au moment de les manger afin que là encore elles conservent tout leur goût.
Thank you. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève le magazine Okapi Service consacré à la lutte contre l'insalubrité et la promiscuité dans les hôpitaux. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières. Sylvain Baougueré a assuré la mise en onde, Tati Mapoukou à la réalisation, Marcel Ngomombalakeba à la coordination au micro, Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine. Cette émission de la vie au quotidien. Restez avec nous.